L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. BFM Business, l'atelier numérique, comme chaque samedi 16h-18h, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. On est ravis de vous retrouver et j'espère que vous allez bien, profiter aussi de ce long week-end de Pâques qui ne fait que débuter. L'atelier, vous le savez, chaque samedi 16h-18h, donc exclusivement sur BFM Business avec toute l'équipe qui est là. Aurore Géraud, nous avons Nathalie Doré depuis évidemment l'atelier US qui est là, Sophia Kadiri qui vient de nous rejoindre, qui est une toute nouvelle journaliste à l'atelier, on va se faire un plaisir de l'entendre dans un instant, et puis Antoine Cyr bien sûr. Messieurs, dames, bonjour, bonjour.
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 N'oublions pas non plus aussi tout à l'heure Jean de Chambure qui sera avec nous depuis Shanghai pour son Vue d'Asie, Silicon Carnet, Cyber Gadget aussi, avec Antoine qui a sélectionné pour nous un vautour connecté, les amis. Non, vous ne rêvez pas. Focus Startup sur Virtuose, notre enquête de l'atelier, ce que la France peut retirer des initiatives EdTech à travers le monde. On verra ça avec Aurore et nos invités. Interview exceptionnelle tout à l'heure de Fabio Cannavale, qui est le PDG du groupe lastminute.com. Où en est le voyage en ligne, tiens? Que se passe-t-il? Quelles sont les tendances? On verra ça tout à l'heure. Lila Megrawa a interviewé donc le patron de Last Minute. On évoquera aussi un sujet passionnant lié à la santé, c'est le transhumanisme. Notre World Tour, direction l'Estonie aussi tout à l'heure. La rédaction de Zeronet.com sera là. Le décryptage de Lila. Et puis, Antoine sera là en toute fin d'atelier, comme chaque samedi, vous le savez. Pour le crash test, Antoine, on va parler de quoi tout à l'heure?
On va parler de Scott McCloud. Scott McCloud, qui est probablement le plus geek de tous les auteurs de bande dessinée.
Scott McCloud.
D'ailleurs, voilà. Quand on s'appelle Cloud, franchement,
oui. on est forcément dans l'atelier numérique.
Voilà, hein? Exactement. Voilà. Mais le gars, ce qui est fort, c'est qu'il s'appelait Cloud avant l'invention du cloud.
Ça, c'est génial, voilà. Quand même. Voilà, Scott McCloud, tout à l'heure, ça sera le point de départ de cet atelier numérique sur BFM Business. Mais pour débuter, puis ça nous fait plaisir de vous entendre, Antoine. On va commencer par vous. L'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Top départ avec vous.
Alors, je vais vous parler d'une utilisation un peu particulière de la réalité virtuelle.
Ah, rien de cochon, enfin, ou rien de, on va dire, tendancieux, on va dire.
Tendancieux, non. Enfin, non, mais ça, c'est tout de même, on parle tout de même d'une activité qui est, alors, qui n'est pas tendancieuse, mais qui est pas bien autorisée non plus.
D'accord.
Puisqu'il s'agit de l'absorption de substances qui ne sont pas forcément autorisées.
Ah, oui.
Ou alors, dont l'abus peut provoquer de graves troubles.
D'accord. Hein.
Il s'agit, en gros,
Ah oui, c'est même plus que grave que ce qui est tendancieux, là.
Voilà. Il s'agit des gens.
Ça, c'est proscrit.
Il s'agit des gens qui sont dépendants à l'alcool, ce qui est mal et ce qui à un moment pose de vrais problèmes, et puis qui sont dépendants à la drogue, ce qui est mal et qui en plus est interdit.
Posez voilà. Votre bouteille de bière, s'il vous plaît, Antoine.
Voilà. Bon. Et donc en fait, ce sont les chercheurs de l'université de Houston qui ont développé une sorte de grotte, comme on dit maintenant, de réalité virtuelle en 3D. Alors l'idée, c'est qu'on réunit des participants qui sont dépendants à l'alcool et ou à la drogue. Ils entrent dans un monde virtuel grâce à un casque et sont filmés pour analyser leurs réactions. Alors dans ce monde virtuel, ils vont être en fait confrontés à des scénarios de leur vie quotidienne dans lesquels ils seraient tentés de consommer de l'alcool ou de la drogue. On peut même être dans le cas où ils vont se retrouver avec ces substances qui leur sont proposées dans des lieux familiers, un verre dans un bar, une drogue de dure même pendant une fête. Oui. Et donc le but, c'est de les mettre en situation afin qu'ils apprennent à dire non. Donc c'est un jeu de rôle qui existe déjà entre les thérapeutes et les patients, mais évidemment la réalité virtuelle est beaucoup plus immersive et peut donc rendre cette expérience de l'apprentissage du refus encore plus efficace.
Intéressant. Voilà. Nathalie Doré depuis l'atelier.
Oui, alors on va parler d'un sujet qui est assez proche mais finalement un peu plus vieux. Alors je reviens sur Internet, hein, qui est l'une des plus grandes inventions des 20 dernières années. Et en même temps, 20 ans plus tard, Internet n'est toujours pas sûr. On a des exemples, vous en connaissez tous, hein, de failles de sécurité. Et à cette semaine encore, on avait une actualité qui nous parlait d'une faille pour qui touchait des millions de smartphones Android. Alors ceci n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau et qui a retenu mon attention cette semaine, c'est que les entreprises communiquent sur ce qu'elles font pour minimiser leurs failles de sécurité. Ce qui est quand même, vous allez me dire, un peu sensible. Alors ça a été le cas de Uber. Alors, on présente plus Uber, qui annonçait cette semaine qu'après un an de tests, ils lançaient leur bug bounty program. Alors c'est quoi un bug bounty program ? Parce qu'ici c'est connu dans la Silicon Valley, mais bon, ça n'a peut-être pas encore complètement traversé l'océan. Donc, bounty, ça veut dire prime. Donc, c'est un programme où on donne une prime à ceux qui trouvent les bugs. Donc, voilà, c'est un type de programme qui paye les gentils hackers pour aller trouver des failles de sécurité.
Avant, il y avait des chasseurs de primes, maintenant, il y a des chasseurs de bugs.
Voilà, faut vivre avec son temps, François.
C'est ça, ouais.
Donc, si vous allez d'ailleurs sur le site hackerone.com/Uber, vous verrez toute la liste des vulnérabilités que Uber souhaite combattre. Alors, on a parlé de primes, vous allez me dire combien, quelles sont les récompenses. Eh bien, Uber a aussi là listé les primes par type de vulnérabilité. Donc, par exemple, c'est $10,000 si vous trouvez une vulnérabilité critique. C'est $5,000 si vous trouvez une vulnérabilité significante. Significante, c'est pas très beau en français. Signifiante.
Oui, ou significative.
Et puis, significative, c'est mieux. Merci, François.
Je vous en prie.
Et ça va en descendant. Donc, cela peut paraître cher, mais quand on pense aux conséquences d'une faille de sécurité, c'est finalement très peu et très efficace.
Pas mal, mais Google a fait ça depuis très longtemps. Hein. Moi, je me souviens qu'ils avaient communiqué il y a quelques années de cela pour justement débusquer des bugs dans leur système, et ils payaient très cher justement les personnes qui arrivaient à corriger, à débusquer ces bugs.
Ouais. Et c'est d'ailleurs des anciens de la sécurité de Google, Facebook, qui sont derrière ce fameux programme, cette plateforme hébergée par HackerOne.
D'accord, donc ils connaissent bien le concept.
Ouais.
Merci beaucoup Nathalie depuis l'atelier US. Elle vient d'arriver dans l'équipe de l'atelier, je vous demande de lui souhaiter la bienvenue comme il se doit. Sophia est avec nous, donc Sophia Kadiri, pour sa première nous sur l'atelier. Tout va bien Sophia ?
Exactement, oui, pour l'instant
bon,
tout va bien.
Voilà, pas de stress, tout va bien. Alors on vous écoute.
Alors moi aussi je vais vous parler d'Uber, mais pour quelque chose de complètement différent. Uber décidément n'en finit plus d'élargir son offre. Après les hélicoptères aussi, l'entreprise propose désormais quelque chose de peut-être un peu moins spectaculaire, mais qui pourrait révolutionner les usages. Donc depuis quelques jours, Uber a lancé Passport. C'est un nouveau service pour traverser la frontière américano-mexicaine.
Eh bien.
Donc cette offre s'adresse surtout aux 70 000 personnes qui font la navette quotidiennement entre les deux pays. Donc jusqu'ici, pour aller de San Diego à Tijuana au Mexique, on pouvait prendre un Uber, mais seulement jusqu'à la frontière, pas aller au-delà. Mmh. En tout cas, pas dans le Uber. Ils sont 50 000 à en avoir fait l'expérience, mais désormais avec Passport, la traversée se fait sans interruption. Bon, à condition quand même d'avoir une pièce d'identité.
Oui, vaut mieux. Pour passer la frontière, c'est plus pratique.
Voilà,
donc on reste dans le même Uber, du début jusqu'à la fin du trajet.
Jusqu'au bout, donc ça réduit pas vraiment les obstacles, mais ça fait probablement gagner quelques minutes. Mais ça, c'est simplement pour aller à Tijuana, parce que dans le sens contraire, c'est encore un peu plus compliqué. Pour aller de Tijuana à San Diego, il faut encore s'arrêter à la frontière, donc avec le Uber du Mexique, descendre, traverser la frontière à pied, puis commander de nouveau un Uber sur le sol américain pour terminer son trajet.
Eh bien, dites-moi, faut pas être pressé, quoi, pour traverser la frontière. Mais bon, en tout cas, ça avance.
Ça avance, et si le service est étendu, on peut considérer que ça développe de nouveaux usages et que désormais, on pourra utiliser Uber pour voyager.
Merci beaucoup, Sophia. Ben, c'était très bien. Ça va ?
Merci.
Vous pouvez respirer maintenant. Bravo, la première news de Sophia, mesdames, messieurs,
bravo.
Dans l'atelier. Voilà. Antoine, vous dites bravo comme ça. Mais non, dire, bravo, enfin.
Bravo !
Ah, ben voilà, c'est mieux. Ça
non, mais c'était pas du tout, c'était un bravo plein d'enthousiasme déjà.
Bravo.
Bravo.
Aurore, alors on vous dit plus bravo parce que ça fait un moment que vous officiez dans l'atelier.
C'est gentil, hein, merci.
Voilà, tandis que moi, je dis bravo. Mais je dis pas bravo la première fois, je dis bravo, mais régulièrement.
Ah oui, c'est un petit bravo, mais régulier.
Voilà.
D'accord. Aurore, donc votre news.
Moi, je vais vous parler de transformation en super-héros. Est-ce que vous avez envie tous d'être des super-héros ?
Mais nous le sommes déjà, Aurore. Franchement.
Vous n'avez pas vu ce vestiaire et toutes ces capes
oui, c'est ça.
Qu'on laisse au vestiaire avant de rentrer
dans
ce studio.
Je me demandais à qui ça appartenait.
Eh bien, déjà, il y a les nôtres.
Tout à fait.
Voilà.
Exactement.
Moi, je vais vous parler donc de vision en infrarouge. Bientôt, on va pouvoir tous voir en infrarouge.
Oh, ça, c'est bien, ça. Alors, ça servira à quoi, en fait ?
Ça, c'est une autre question.
Ouais.
Si, de voir la nuit, effectivement, ça se permettra aussi de rectifier en fait la vision des gens. Alors plus concrètement, on va avoir deux types d'outils qui ont été développés. Il y a une espèce d'implant qu'on met dans le cerveau. C'est pas très très fun. Pour l'instant, ça a été fait sur des rats qui sont composés en fait de plusieurs électrodes qui permettent donc à l'individu.
C'est pauvre rat.
Ouais, c'est pauvre rat. Qui permettent donc à l'individu de voir en infrarouge. Et puis on a également des lentilles qui s'adaptent automatiquement à l'œil hein, grâce à un matériau qui est flexible et qui est connecté via un circuit imprimé.
Ouais.
Et des ordinateurs
des ordinateurs
qui marchent à la lumière du jour.
Ouais.
Et donc ces deux technologies spécifiques permettent donc de voir la nuit, mais surtout on peut imaginer que après on pourra avoir les ondes magnétiques, les rayons X, même
comme
en ultra...
Daredevil.
Comme Daredevil, ou en ultraviolet.
Non,
alors on peut penser à la sécurité, aux agents qui pourront voir la nuit les délinquants, ce genre de choses. On parlait aussi avec notre réalisateur de la possibilité pour les agriculteurs de voir la nuit les pousses.
Ah oui, bien sûr.
Donc il y a quand même une utilité, en plus d'être un super héros.
Ah oui, de temps en temps vous discutez des agriculteurs qui voient la nuit, les pousses et tout ça avec Colin.
Colin est très efficace.
Vous avez quand même des sacrées discussions, c'est impressionnant. Antoine, petite news, rapidos.
Oui, on va parler d'une vraie intelligence artificielle. Figurez-vous qu'à Tokyo, il y a aujourd'hui un robot industriel qui se programme presque tout seul. Alors en fait, voilà, vous lui donnez une tâche le soir et il aura appris le lendemain matin, lui-même, comment la réaliser. Alors comment fait-il ? Bah, par exemple, vous lui demandez de sortir un objet d'une boîte pour le ranger à un autre endroit. Mais vous lui dites pas comment, vous n'allez pas le programmer pour
d'accord,
faire ça.
Ouais, ouais.
Vous lui dites ton objectif, robot, si tu me suis bien, c'est de sortir cet objet d'une boîte pour le ranger à un autre endroit. Et là, le robot va passer la nuit à essayer d'effectuer cette tâche en prenant en vidéo chaque étape qu'il réalise. Et chaque fois qu'il réussit ou qu'il échoue dans le processus, il se souvient de ce qu'il s'est passé et il affine son modèle d'apprentissage. Et donc, en 8 heures, c'est le temps qu'il lui faut pour ce type d'opération, le robot s'est programmé tout seul. Évidemment, on imagine l'économie en temps et en ressources humaines,
d'accord,
puisque la programmation de ces machines de pointe est complexe, qu'elle est longue à réaliser. Alors, ce robot ultra intelligent a été créé par la société FANUC et les programmateurs de Preferred Networks et donc ils ont utilisé ce qu'on appelle, c'est très joli, c'est évidemment traduit de l'anglais, l'apprentissage par renforcement profond. L'objectif est d'aller encore plus loin, de faire travailler plusieurs robots en même temps qui partageraient leur connaissance.
Hein,
non, mais, non, mais
hein,
ça me fait rire. Vous rendez compte quand même qu'une fois qu'on a le robot a pris le boulot des gars qui faisaient le boulot.
Oui.
Et maintenant, on est quand même en train de prendre le boulot des gars qui programment les robots. Donc,
c'est quand même fort.
C'est
formidable.
C'est formidable.
C'est formidable.
Voilà. Formidable. Ben oui, mais c'est le progrès.
C'est le progrès. Alors, peut-être pas social, mais le progrès.
Voilà.
Voilà. Et place maintenant notre vue d'Asie. Et vous le savez, comme chaque samedi, c'est avec Jean de Chambure depuis l'atelier de Shanghai en Chine. Salut Jean.
Bonjour François.
Alors Jean, cette semaine, on va parler des nouvelles formes de mobilité en Chine. Ça bouge pas mal du côté de l'automobile.
Oui François, c'est vrai que c'est une petite révolution qui est en marche en Chine du côté de la voiture. Bon, vous savez qu'en Chine, le développement économique est aussi très lié au fantastique développement des villes. Je vous donne juste quelques chiffres pour vous donner une idée.
Mmh.
Les 10 premières villes en Chine ont plus de 10 millions d'habitants. Et les 40 premières villes en Chine ont plus de 2 millions d'habitants. Donc tout de suite, ça vous donne une idée de la taille de ces villes. Alors évidemment, derrière ce développement urbain, il y a des embouteillages, il y a de la pollution, il y a des congestions urbaines. Et donc, de plus en plus, les automobilistes chinois, pratiquement un tiers d'entre eux, sont prêts finalement à laisser leur voiture pour trouver des solutions alternatives du type covoiturage, du type location ou partage de véhicules électriques. C'est intéressant de constater ça parce que il y a quelques années, on est en train de parler il y a 3-4 ans, disons, en Chine, le modèle encore de développement chinois était très lié, le statut social était très lié au fait de posséder une voiture. Et plus ça va, plus les nouvelles générations qui sont en train d'arriver adoptent un nouveau mode de consommation qui est déjà un peu un mode de consommation qu'on voit poindre en Europe et aussi dans la Silicon Valley.
Plus collaboratif, donc, c'est ça ?
Exactement, ouais, exactement. Donc c'est la smart mobility, comme on dit du côté de la Silicon Valley. C'est des opportunités évidemment pour des opérateurs de mobilité, de devenir opérateur de mobilité, que vous soyez une ville, que vous soyez un constructeur de voitures, que vous soyez des gestionnaires de flotte automobile. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Je vais vous donner quelques chiffres concrets et je vais vous parler un petit peu de Singapour après pour illustrer tout ça. Mmh. Chiffres concrets, vous savez qu'il y a le fameux concurrent de Uber en Chine qui s'appelle Didi Kuai, le petit frère express. Alors là, il est vraiment en train de faire un carton en Chine. C'est une croissance qui est spectaculaire. En septembre dernier, quand je vous en parlais, ils étaient autour de 6 à 7 millions d'utilisateurs par jour. Aujourd'hui, ils sont à plus de 10 millions. Déjà, c'est un progrès très important, tandis que Uber reste à 2 millions d'utilisateurs. Donc, ils sont vraiment en train de faire un trou très, très important. Parmi ces 10 millions de trajets qu'ils effectuent chaque jour, quand même en Chine, il y a 1,6 million de trajets qui sont effectués en partage, en covoiturage. Excusez-moi, je finis par perdre mon français à part de parler anglais et chinois. Donc, en covoiturage, 1,6 million de personnes utilisent ça chaque jour. Alors que c'est une option qui n'est ouverte pour l'instant sur Didi Kuai que dans 15 villes chinoises, alors que Didi Kuai couvre en tout 400 villes chinoises. Donc, vous voyez que c'est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qui va être, je pense, de plus en plus utilisé par les Chinois. Donc ça, c'est d'un côté le covoiturage. De l'autre, c'est bien sûr la location progressive de véhicules et la construction de véhicules électriques. Là aussi, c'est en train d'arriver très, très, très vite en Chine. Juste deux petits exemples qu'on a regardé du côté de l'atelier juste à côté de la Chine, à Singapour. Vous savez, cette ville qui fait quand même 3 millions d'habitants. Ils ont lancé des choses très intéressantes, par exemple, en partenariat avec une boîte britannique qui s'appelle Open Bionics, qui est à Bristol. Et en fait, ils ont lancé donc le premier véhicule à énergie solaire et électrique, avec en plus de la 3D, puisque c'est 150 pièces détachées en 3D qui sont réassemblées après. Ça coûte moins cher. C'est comme ça que Singapour va adopter ce véhicule. Voilà, donc vous voyez que la smart mobility se porte bien en Chine et à Singapour, et on va continuer à suivre ça de très près.
Ah, et ce n'est que le début, Jean, bien évidemment. Merci beaucoup Jean de Chambure, vous le savez, chaque samedi dans l'atelier pour notre rendez-vous Vue d'Asie depuis Shanghai. Merci beaucoup Jean. Et vous restez avec nous, la suite de cet atelier dans un instant, Silicon Carnet avec Nathalie Doré, là on ira à San Francisco avec l'atelier US, et puis la sélection de gadgets d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Les gadgetos d'Antoine Cyr arrivent, les amis. Ces gadgetos seront là dans quelques minutes. Mais auparavant, direction San Francisco, comme chaque samedi dans cet atelier numérique avec le Silicon Carnet de Nathalie Doré, qui était avec nous d'ailleurs il y a quelques minutes. Nathalie, on va s'intéresser cette semaine à l'économie des API. Alors même si le sujet n'est pas nouveau, je pense qu'il faut quand même nous éclairer sur ce concept des API.
Oui, François, vous avez raison. Je crois qu'il faut quand même expliquer un petit peu de quoi on parle. Alors, si je vous dis qu'API veut dire Application Programming Interfaces, je suis pas sûre que cela vous aide beaucoup.
Bon, mais déjà, en fait, j'apprécie votre accent anglais parfait, donc ça, c'est bien. Ça, c'est super.
Bon, tout le monde ne dit pas ça, mais merci. En fait, ce concept d'API était plutôt réservé aux développeurs et architectes informatiques, puisqu'il s'adresse à eux en premier lieu. Mais on voit qu'actuellement, voilà, ça intéresse tout le monde, car on peut plus désormais prévoir une expérience client sans penser aux API. Alors, pour vous donner un exemple concret, par exemple, si vous avez besoin de mettre le bouton like de Facebook sur votre site, vous allez utiliser l'API de Facebook pour le mettre sur votre site. Si vous voulez intégrer une carte, vous n'allez pas vous-même réinventer une carte, vous allez utiliser l'API de Google Maps pour intégrer la carte Google Maps sur votre site. Donc, les API sont vraiment un must-have pour les business aujourd'hui.
Alors, d'ailleurs, Amazon ne s'y était pas trompé, Nathalie.
Oui, c'est vrai, c'est un des premiers. Jeff Bezos, le patron visionnaire d'Amazon, ne s'est pas trompé une fois de plus. Il a dit il y a plusieurs années que chaque asset IT, pour reprendre ses termes, donc chaque élément IT de l'entreprise, devait pouvoir être exposé à une API. Et aujourd'hui, ça lui permet de générer des milliards de dollars. Et c'est pour ça qu'on parle d'économie de l'API, ou même aux États-Unis, on parle de API business en anglais, puisque vous aimez bien mon accent, j'en remets une petite couche.
Alors, vous l'avez dit, c'est une façon aussi d'enrichir l'expérience client, hein. C'est aussi une façon de faire converger les services.
Oui, tout à fait, François. Alors, on vit à l'ère de la convergence, hein. Je crois qu'on en parle souvent sur ces ondes. Convergence online et offline, convergence entre les services. Bref, on ne peut plus faire du business tout seul. Alors, si je vous donne un exemple, on peut désormais, par exemple, faire converger les applications de navigation, celles que vous utilisez comme Google Maps ou Waze, et les services de transport. Alors, c'est une actu, hein. Google Maps propose désormais de commander un Uber directement de leur appli. Et si l'utilisateur de l'appli Google Maps clique, ou plutôt touch, si on est sur du mobile, sur le bouton Uber, eh bien, il est présent, bien sûr, grâce à l'API de Uber, eh bien, l'utilisateur est directement redirigé vers l'application Uber sans avoir à entrer de nouveau son itinéraire. Donc, c'est beaucoup plus fluide et il y a une communication, du coup, entre les services qui est vraiment au bénéfice de l'utilisateur.
Et puis, Nathalie, c'est une convergence aussi qui est bénéfique aux deux services.
Ouais, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de business, hein. Alors, si on reprend mon exemple, pour les nouveaux modes de transport, ce type de partenariat leur permet de scaler, comme on dit ici, hein, c'est-à-dire de passer à une grande échelle en exposant leur service à des millions d'utilisateurs. Et pour l'application de navigation, qui elle, bon, est déjà très connue, cela enrichit et la différencie certainement des autres en proposant un nouveau service et donc ça la rend encore plus indispensable.
Nathalie, vous avez cité donc Amazon, Google, Uber. Est-ce que cette stratégie d'API est réservée aux géants américains?
Non, alors ils ont ouvert la voie, ils ont communiqué dessus, mais je pense que chaque entreprise aujourd'hui devrait avoir sa propre stratégie d'API. Et d'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, même les banques américaines ici, alors que ce soit Citi, Bank of America ou Capital One, ont décidé d'ouvrir leurs API à des services externes. C'est une façon pour moi indispensable de s'ouvrir à l'innovation externe et aussi de renforcer sa stratégie mobile en intégrant des services tierces dans ses parcours clients. Alors, sans parler du business additionnel que cela peut apporter, on parlait de millions de dollars. Bref, beaucoup d'avantages, c'est pour cela que beaucoup d'entreprises aujourd'hui accélèrent sur ce sujet.
Merci beaucoup Nathalie, depuis l'atelier de San Francisco. Maintenant nous enchaînons avec la sélection de Gadgeto Trouvailles d'Antoine Cyr. Antoine, on commence par quoi? Allez, faites-nous rêver.
Écoutez, ça fait quand même un peu rêver. On connaît beaucoup de choses connectées, mais on ne connaissait pas encore les vautours connectés.
Les vautours connectés, oui. Ça non, c'est vrai.
Et en plus, les vautours connectés ont finalement une mission. Alors, c'est une sorte de mission de police, mais enfin, c'est quand même une mission de police très, très appréciable et respectable, comme d'ailleurs beaucoup de missions de police. Mais celle-là consiste à détecter les tas d'ordures illégaux.
Oui, parce que c'est vrai que parfois il y a des décharges, on va dire,
oui, et alors
un peu sauvages.
Et alors on est dans un pays où il y en a quand même pas mal,
oui,
parce que
c'est
Pérou, hein. Et donc les autorités ont décidé d'utiliser des oiseaux connectés pour lutter donc contre les tas d'ordures illégaux.
Alors attendez, je vous arrête, ce sont de vrais oiseaux, ne sont pas des drones.
Bien entendu. Donc ce sont, alors il s'agit des vautours noirs qui sont très présents dans la région et qui sont naturellement attirés par les déchets à l'air libre lorsqu'ils cherchent pitance.
Oui, ils aiment bien ça.
Et ben oui. Et donc la ville de Lima, avec l'aide d'une université locale et du musée d'histoire naturelle, a doté ses rapaces de caméras GoPro afin de localiser les déchets abandonnés illégalement, qui d'ailleurs finissent ensuite enfouis dans l'océan Pacifique. C'est le ministère de l'environnement qui est derrière cette initiative. Les données géographiques des oiseaux sont récupérées en temps réel et sont donc localisées sur une carte interactive qui permet ensuite de localiser les zones de déchets vues sur les images. Alors ça a aussi un autre avantage, en dehors du fait de localiser ces fameuses zones de déchets, ça a comme avantage de dédiaboliser ces oiseaux
qui ont mauvaise presse
auprès des habitants. Et donc cette fois-ci, ça permet cet oiseau joue un rôle important de sensibilisation, voire quand même de repérage pour agir et intervenir, de tas d'ordures illégaux.
Très bien, mon cher Antoine. Deuxième gadgeto maintenant. Attention, après les vautours, vous allez nous parler de quoi?
Alors, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est le Halo Sport, qui est un casque audio qui améliore votre performance sportive. Alors, figurez-vous que c'est un casque audio qui stimule le cerveau. On en a déjà parlé ici. Là, vous avez deux
éléments. C'est pas le casque qu'on a là.
Non, c'est
parce que lui, il nous stimule pas. Enfin il stimule le cerveau un peu.
Au début, il nous stimulait un peu, mais maintenant, là, il en faut plus.
Hein. C'est vrai. Ça vous fait rire, hein, ça.
Et donc, il y a en fait, donc c'est deux électrodes qui sont placées dans l'arc du casque. Donc là, pour le coup, il ressemble un peu.
On les reçoit la semaine prochaine pour BFM, ces casques-là.
Et donc, il envoie de très petites décharges électriques qui ont pour but d'activer les neurones du cortex moteur, zone du cerveau en charge de la coordination et des mouvements. Le porteur du casque produit alors davantage de connexions entre ces neurones. Là, figurez-vous que cette stimulation douce, qui est appelée stimulation transcrânienne, donc va avoir un effet, par exemple, sur des skieurs de haut niveau. On aurait démontré que ça améliore leur performance sur les sauts à ski. Alors cependant, certains scientifiques, parce qu'au fond c'est quand même du dopage par le casque, certains scientifiques pensent qu'il est prématuré, voire dangereux, de commercialiser cette machine, même si la neurostimulation, il faut bien le dire, est étudiée aujourd'hui de façon sérieuse. Alors là, quand même, on a une start-up qui s'appelle donc Allo Neuroscience, donc Allo Neuroscience, avec l'accent, à San Francisco, qui le propose déjà en ligne, ce casque, pour le prix de $550. Cela dit, tout de suite, là, il n'y en a plus. Ils ont réussi à tout
vendre. Ils ont réussi à tout vendre.
Ils ont réussi à tout vendre.
Eh bien, dites-moi.
Eh oui.
Bon, écoutez, on va en commander pour voir ce que ça donne, hein. Pour tous ceux qui font de la radio, est-ce que ça va stimuler nos propos?
Mais très certainement, mon cher François.
Mon cher Antoine, nous n'avons pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça, on vous retrouve tout à l'heure pour le crash test, hein, qui est, voilà, on va dire un feu d'artifice neuronal, comme chaque samedi. À tout de suite, on revient pour cet atelier avec le Focus Startup et notre enquête de l'atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Ce que la France peut retirer des initiatives EdTech à travers le monde. On va en parler avec Aurore Géraud et nos invités dans un instant. Mais Aurore Géraud, vous le savez, est sur tous les fronts. C'est elle aussi qui s'occupe de notre focus startup. Et aujourd'hui, justement, gros plan sur Virtuose, Aurore.
Alors, pour ce focus startup de cette semaine, je suis en compagnie de Gilda Dussauze, qui est cofondateur de Virtuose. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il se cache derrière le nom Virtuose? Alors, je précise, Virtuose, V-R-Tuose.
Oui, V-R-T-U-O-Z, parce que donc, c'est donc une contraction de VR pour Virtual Reality. Donc, Virtuose, c'est quoi? C'est une plateforme de partage de contenu en réalité virtuelle qui s'adresse d'une part aux créateurs de contenu. Donc, on leur propose à chacun de ces créateurs un kit qui leur permet de post-produire et de diffuser du contenu qu'ils souhaitent mettre en avant en format virtuel. Et d'autre part, côté utilisateur, c'est une interface, une application qui est accessible par mobile et sur desktop. Cette application permet de pouvoir créer son espace, de se créer une identité virtuelle et ensuite de partager des contenus, puisque l'originalité de Virtuose, c'est de lire des vidéos en groupe, à plusieurs, au sein d'un espace virtuel.
Alors, je suis utilisateur, j'ai mon mobile. Comment est-ce que je crée mon espace virtuel?
Donc, vous avez un mobile, vous avez téléchargé l'application qui est gratuite. Vous avez un cardboard au minimum, ou sinon un casque un peu plus évolué. Comment vous créez votre espace? Vous avez des espaces qui sont par défaut proposés gratuitement et ensuite des kits qui vous permettent de personnaliser cet espace pour en faire ce que vous voulez. De la même façon, côté avatar, des modules vous proposent des avatars gratuitement et ensuite, en termes de personnalisation, plus vous voulez aller loin dans la personnalisation, plus les kits sont précis et vous permettent de pouvoir accéder à cette singularité aussi que vous pouvez retrouver dans le monde virtuel.
Alors, et si demain je suis une entreprise plutôt qu'un utilisateur entre guillemets lambda, qu'est-ce que vous faites pour moi?
Virtuose va vous permettre déjà de créer le contenu si vous ne savez pas le créer, ou sinon de vous aider à le créer avec tout un ensemble de best practices dans la captation et la réflexion autour de la création du contenu. Donc première étape, créer le contenu. Deuxième étape, le post-produire, c'est-à-dire créer des chemins interactifs, des itinéraires dans le contenu. C'est l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est d'avoir des contenus intelligents, interactifs. Donc nous, on propose des solutions qui permettent de créer ces contenus d'une manière interactive. Troisième étape, diffuser le contenu, c'est-à-dire l'héberger déjà d'une part, et ensuite avec notre solution, d'utiliser le player multi-user 360 qui permet à plusieurs utilisateurs de lire ces contenus-là en même temps.
Est-ce que vous auriez un exemple d'entreprise avec sa room virtuelle?
Alors, on travaille sur plusieurs prospects actuellement. Il y a des négociations qui sont plus ou moins avancées. Là où on a le plus de réponses positives, c'est du côté des agences de voyage ou de clubs de sport. L'idée, par exemple, pour les clubs de sport, c'est de proposer des loges virtuelles qui permettront donc à des utilisateurs qui sont un peu dispatchés partout dans le monde de se retrouver dans une loge virtuelle et d'accéder à des matchs. C'est le gros levier pour nous.
Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la suite pour vous ?
Alors, la suite, d'abord, comme on est tout jeune, c'est déjà de se financer. On a lancé une levée de fonds il y a quelques semaines qu'on souhaite clôturer dans les semaines à venir. Ensuite, c'est de démontrer les use cases dont je parlais, côté sport comme côté agence de voyage. On est en train de travailler sur un gros événement qui aura lieu au mois de juin et où là, l'idée, c'est de le capter, de le diffuser en direct. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de, à la rentrée, de s'associer avec des acteurs du monde du divertissement, que ce soit le sport ou la musique, par exemple, pour travailler sur un autre use case de dimension internationale. Voilà, ça, c'est sur l'actualité septembre-octobre.
Merci beaucoup.
Merci, Aurore. Aurore qui est toujours avec nous pour notre enquête de l'atelier, donc. Et on va faire un peu, allez, non pas un tour du monde, parce qu'on va pas maintenant survoler tous les pays qui sont innovants en termes de high-tech, mais quelques-uns. En compagnie de nos invités, Aurore.
Oui, on va faire un espèce de long world tour cette semaine, en plus de mon world tour Estonie. On est en compagnie de Svenia Busson et Audrey Jarre, qui sont toutes les deux cofondatrices du EdTech World Tour. Svenia et Audrey, bonjour.
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 Alors, on avait reçu Svenia à toute première émission de la saison sur la EdTech. On a suivi leur parcours à toutes les deux à la baie, en Nouvelle-Zélande, mais elles n'ont pas été qu'à ces endroits-là.
Mais qu'est-ce qu'elles voyagent ? Mais c'est dingue, ça !
C'est dégueulasse,
surtout ! Alors que nous, on reste dans notre studio, hein ?
C'est dégueulasse, en plus il fait un vraiment mauvais temps en plus en ce moment. Donc du coup, est-ce que vous pourriez nous dire déjà dans un premier temps, Svenia, nous rappeler en fait ce qui a motivé ce EdTech World Tour et ce que vous entendez par EdTech ?
Alors tout simplement c'est parti d'un constat, le constat que nos systèmes d'éducation sont désuets, ils sont pas adaptés au 21e siècle et à la révolution du numérique. En plus de ça, on a une frustration de notre propre éducation qui a été la même que celle reçue par nos parents et nos grands-parents.
Ouais, alors donc, que tout a évolué, tout est devenu
exactement.
Connecté, etc. Donc il y a voilà, c'est
un décalage.
Il y a
un gros décalage. Et les méthodes pédagogiques n'ont pas du tout évolué, alors que notre monde s'est drastiquement transformé. Et donc du coup, voilà, cette transformation a touché tous les secteurs. Et on a l'impression qu'en France, cette révolution semble pas évidente pour l'éducation. Et c'est pour ça que voilà, on a eu cette passion pour cette curiosité pour l'éducation et les nouvelles technologies. Et ça nous a poussé à créer ce projet pour voyager sur tous les continents et voir un petit peu les meilleures pratiques en termes d'éducation numérique partout. Et en fait, les EdTech pour nous, c'est d'abord et surtout une nouvelle façon de penser l'éducation, en fait, en utilisant la tech en tant qu'outil comme un autre, finalement. Et il y a plein de nouvelles pédagogies qui sont créées, donc la pédagogie de projet, la classe inversée, et tout ça, c'est des pédagogies qui peuvent, en fait, permettre aux apprenants de penser par eux-mêmes, d'être acteurs de leur apprentissage, et non plus dans un rôle passif, à écouter le professeur dans son rôle du sage, qui débite un savoir qu'il faut apprendre par cœur, finalement. Donc la tech, ça nous aide, finalement, à adopter ces nouvelles pédagogies.
Donc du coup, vous avez fait Chili, Australie, Inde, Corée du Sud et Afrique du Sud, en plus de la France. Audrey, quel pays a été, selon vous, le plus en avance en matière d'EdTech ? Qu'est-ce qui brille par son excellence ?
Zénia, on avait parlé dans une précédente interview, mais c'est vraiment la Nouvelle-Zélande qui nous a touchés, vraiment un prototype de réussite étatique. Le pays, avant même de déployer les outils digitaux, s'est vraiment attelé à la mise en place d'infrastructures qui lui étaient favorables, donc avec du Wi-Fi installé dans toutes les écoles du pays par une agence gouvernementale, des organismes de formation privés qui ont aussi émergé pour former les professeurs aux nouvelles technologies appliquées à l'éducation, en donnant aussi vraiment le poids à l'égalité des chances au sein du pays et pas seulement dans les écoles privilégiées. La réputation des États-Unis aussi n'est plus à faire en ce qui concerne la tech et la maturité de l'écosystème se caractérise vraiment par ici le bourgeonnement d'acteurs très spécialisés pour à la fois de l'investissement, de la recherche, mais surtout la mise en relation des acteurs au niveau local, et c'est peut-être ce qui manque en France, pour comprendre dans chaque école, dans chaque district, quelle technologie adopter, avec des systèmes de concierges pour les écoles, des summits pour les professeurs pour recueillir leur feedback, et également des clusters pour mettre en relation, en fait, finalement, les différents acteurs du système qui ne communiquent pas entre eux, et évaluer la portée de ces outils et la façon dont ils peuvent correspondre aux promesses du gouvernement dans leur implémentation, comme avec Education Superhighway aux États-Unis qui évalue l'infrastructure en place indépendamment donc de ce qui est fait en termes gouvernemental.
Ok, donc là vous parlez plutôt des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande. Svenja, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle différence vous voyez entre les pays développés et les pays en voie de développement ? Est-ce que les uns peuvent apporter aux autres certains éléments d'amélioration ?
On a vu de très grandes différences entre les pays développés et les pays en voie de développement, parce que ces derniers sont en règle générale beaucoup plus enclins au changement, car ils ont un retard à rattraper en fait, et pensent pour certains le numérique comme la solution miracle à leurs problèmes d'inégalité d'accès à l'éducation. Et c'est là où nombre d'entre eux se sont mépris, notamment en Amérique du Sud, avec le déploiement massif du One Laptop Per Child, qui a été un échec au Pérou et en Uruguay, pays dans lesquels l'infrastructure n'était pas présente, et les professeurs absolument pas préparés en fait à l'arrivée de ces outils. Et encore moins formés à leur utilisation en classe.
Donc ces ordis ne servaient à rien, en fait.
Absolument, voilà, c'est ça. Ils ne servaient à rien. Il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de contenu. Bah les profs n'étaient pas formés. Donc voilà, c'est l'erreur à pas faire, finalement. Un bon exemple dans les pays en voie de développement, c'est l'Afrique du Sud, qui a mis en place une innovation qui est assez frugale. C'est-à-dire que on voit les effets assez spectaculaires des produits low-tech et du mobile learning, qui est très développé. Mais la 3G coûte très cher là-bas. Donc il fallait, en fait, il faut développer des solutions très peu coûteuses qui utilisent, par exemple, les SMS. En bref, les Sud-Africains font avec les moyens du bord et ils sont très inventifs. Et ça, on peut vraiment en apprendre d'eux. Cette fracture numérique, elle n'existe pas forcément dans les pays, dans les pays développés. En France, par exemple, on sait d'une étude de l'OCDE que 96% des élèves défavorisés ont accès à Internet à la maison. Donc il n'y a pas vraiment de barrière à la mise en place de nouvelles pédagogies comme la classe inversée, par exemple, en France. L'autre extrême, c'est la Corée, qui est un pays développé mais très peu représentatif de sa catégorie. L'innovation et le numérique qui touchent tous les aspects d'une société ultra moderne, sauf l'école. À l'école, presque aucune trace de numérique, surtout pas.
Tiens.
Pourquoi innover quand les méthodes actuelles continuent à faire leurs preuves au regard des standards internationaux comme PISA? Donc la Corée est deuxième au classement PISA des meilleurs systèmes éducatifs.
Ah oui,
voilà. Pourtant, il est hyper traditionnaliste et vraiment pas innovant.
Et pourtant, c'est un pays hyper innovant, les Samsung, les LG.
Oui, bien sûr.
C'est ça qui est étonnant.
Bien sûr, oui, mais pas en éducation. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est basé sur les examens et la capacité des apprenants à s'y soumettre tout le long de leur scolarité. Et en fait, la pression sociale des parents, des pères et des profs est colossale. Et le passage du bac est l'étape la plus importante de leur vie. Et les Coréens sont des professional test takers, en fait. Et ils manquent d'intelligence émotionnelle, de compétences humaines, et surtout, c'est les élèves les moins heureux de l'OCDE. Donc voilà, c'est pas vraiment un modèle à suivre.
C'est, oui. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont plus heureux, sans doute.
Ah oui, ils sont beaucoup
avec
plus
leur
heureux.
Wi-Fi.
C'est ça.
Est-ce que, Audrey, vous voyez des obstacles qu'on pourrait dire communs d'un pays à un autre? Est-ce que les différences en fait entre pays développés et pays en voie de développement marquent aussi dans les obstacles?
Partout, pays développés comme pays en voie de développement, on a vu des projets d'école numérique très ambitieux, mais qui passent principalement par de l'équipement, avec l'obstacle qui serait, je pense, la sous-estimation de la formation nécessaire des professeurs, pas seulement aux outils, mais aussi aux usages et aux bonnes pratiques. Les écoles et les universités d'un pays, même donné, n'ont pas les mêmes moyens ni la même infrastructure pour mettre en place ces outils. Et on a vu des écoles privées à 20 000 euros l'année au Chili et en Inde à la pointe de l'innovation, et des écoles publiques qui avaient à peine assez de chaises pour tout le monde. Donc malheureusement, l'adoption de la technologie de l'éducation reste encore, où que ce soit, très liée aux moyens financiers et donc aux barrières qui peuvent se dresser entre le public et le privé. Le scepticisme aussi face à ces nouveaux outils, il est grand partout. Comme tout ce qui est nouveau est inconnu, et tant que son efficacité n'est pas prouvée, on en a peur. Et ça touche encore une grande partie des professeurs qui n'ont pas conscience du potentiel du numérique dans l'éducation, car ils n'ont juste jamais été confrontés à sa bonne utilisation. Donc le plus grand défi partout, ça réside dans cette prise de conscience. C'est pour ça qu'il nous faut justement partager ces exemples de bonnes pratiques. Si ça fonctionne autre part, pourquoi pas chez moi?
Et donc Svenja, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la bonne combinaison selon vous pour le développement de ce genre de technologie? Est-ce que ça doit être l'État surtout qui pousse? Est-ce que ça doit venir des startups? Est-ce que ça doit venir de tout le monde?
En fait, je pense que c'est d'abord la collaboration entre les différents acteurs. Je pense pas que l'État puisse et doive être le seul instigateur du changement, finalement. Il y a trois grands rôles, les startups, les citoyens, donc les entrepreneurs et les visionnaires, c'est plus l'inspiration, je pense. Les startups vont vite, elles peuvent lancer un trend, une idée, un produit qui aura un impact et qui pourra faire changer les mentalités petit à petit, donc elles ont un rôle très important. Les professeurs sont plus dans le rôle de la réflexion, c'est eux qui devraient être au cœur de la réflexion. Pourquoi? Parce qu'ils sont les principaux concernés, c'est eux qu'il faut former, qu'il faut encourager à penser penser et créer l'école de demain, en fait. Et il faut les laisser expérimenter, échouer, réessayer, comme le font certaines écoles en Australie. Et l'État, c'est plus la mise en place. Donc, donner les fonds nécessaires pour la mise en place à toutes ces nouvelles pédagogies et ces outils numériques, et surtout mettre à disposition des programmes de mesures d'impact. Voilà.
Plus. Et donc du coup, Audrey, je me tourne vers vous. Quel bilan vous retirez de ce voyage ? Est-ce que vous trouvez que la France est en retard par rapport aux autres pays, ou est-ce que on est dans la norme ?
Ce qu'on retire principalement, c'est que pour le numérique soit efficace à l'école, l'enseignant doit vraiment signer un rôle précis et déterminer sa place dans le scénario pédagogique qui soit préalablement établi. Donc avant de vouloir déployer des tablettes, des ordinateurs, il faut une véritable stratégie, une forte implication du corps enseignant et une volonté des professeurs de changer leur mode d'instruction et leur rôle. Et il faut les former et leur montrer des exemples qui soient concrets. Donc, le plan de formation de 3 jours consacré au numérique annoncé par le nouveau plan, justement, quel contenu il aura? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'on a besoin aussi en France de communautés autonomes de professeurs pour combler les lacunes de ces formations, d'organismes privés qui prennent en charge ces formations avec des possibilités de subvention? En France, même si l'accès universel à l'éducation est maintenu, on n'a pas forcément de démocratisation de la réussite. C'est en France que les résultats scolaires des élèves sont les plus corrélés à l'origine sociale de leur famille. Et l'équipement des familles, aujourd'hui même, a dépassé depuis longtemps l'équipement des écoles. Et la formation des professeurs ne s'est pas adaptée. Donc, dans les différentes formes des EdTech, si on parle d'éducation secondaire ou primaire, l'école numérique, c'est un bon début. Mais tout va se jouer dans, justement, cette formation. En ce qui concerne ensuite l'éducation extrascolaire en France, il faut reconnaître qu'on a de beaux succès, comme Déclic électrique, qui vient d'ailleurs de lever 300 000 euros cette semaine pour débuter son expansion internationale, Live Mentor. Et on a aussi des champions en termes de lifelong learning, de corporate learning. Mais en ce qui concerne le scolaire, tout est encore à faire et on suivra avec attention justement ce qui se passe avec le nouveau plan.
Merci beaucoup Svenja et Audrey d'avoir été avec nous pendant ce petit quart d'heure pour évoquer justement comment ça se passe en matière d'éducation et de technologie dans ces pays qu'on a visités grâce à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Aurore, on revient dans un instant pour la suite de l'atelier avec une interview exceptionnelle dans cet atelier numérique. Ce sera le PDG du groupe lastminute.com qui répondra aux questions de Lila Megraoua. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Notez que tout à l'heure, on retrouvera notre passion selon Sanet. On va parler de transhumanisme dans quelques minutes. Mais auparavant, notre web stratégie avec un invité exceptionnel cette semaine, Lila Megraoua. Vous avez rencontré le PDG du groupe lastminute.com avec qui on va faire un point justement sur ce marché qui bouge énormément, le marché du voyage en ligne.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un révolutionnaire du secteur du voyage, Fabio Cannavale. Bonjour.
Bonjour.
Fabio Cannavale, vous êtes le PDG du groupe lastminute.com. Alors vous avez, comme je disais, largement participé à la disruption du voyage, notamment avec la création dès 2004 de Bravo Fly. Et en mars 2015, vous acquérez lastminute.com. Alors aujourd'hui, le groupe pèse plusieurs centaines de millions de dollars. Si vous deviez tracer en quelques traits l'évolution du secteur du voyage, comment vous définiriez cette évolution? On est passé du temps réel, d'une expérience à temps réel, d'une expérience excessivement personnalisée. Est-ce que cette expérience client, cette expérience voyageur est terminée ou vous pensez qu'on est qu'au début?
I think we are in the beginning of the transportation.
Oui, je pense que nous sommes qu'au début de la transformation du secteur. Je veux dire qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter au niveau de la réservation des voyages. Bon, en fait, si vous regardez bien aujourd'hui où la plupart des recherches effectuées sur les sites de voyage, vous devez déjà dire qui vous êtes, tandis sur les mobiles, on a toujours tous les données personnelles. Donc, on sait qui est la personne. D'effet personnaliser beaucoup plus l'expérience. Si vous prenez par exemple l'expérience de réservation d'avion, c'est un marché qui est particulièrement développé. On peut dire que 55% des réserves pour réserver un avion sont passées sur mobile. Donc si on prend ça, les mobiles peuvent vraiment transformer la manière dont les gens réservent les voyages. Et je dirais même plus, la manière dont les gens voyagent. Avant, les gens devaient prévoir bien en avant un voyage, réserver bien en avant. Maintenant, vous avez beaucoup plus de flexibilité grâce à votre mobile. Donc, le mobile est toujours dans votre poche et vous pouvez faire les choses sur place. Donc, oui, bien sûr, je pense que l'industrie a beaucoup changé, mais qu'elle continuera à changer dans les années suivantes.
Alors, d'ailleurs, vous aviez annoncé l'acquisition, enfin, plutôt le lancement de l'application Urbi. On a un peu l'impression qu'en fait, vous souhaitez passer d'être un géant du voyage, également que vous vous attaquez au transport. Alors Urbi, pour expliquer à nos auditeurs, l'application Urbi propose à l'usager un voyage quelque part multimodal en ville. Votre but, c'est de développer, c'est d'agrandir votre business.
Yes, our idea is that we have to be close to the customer.
Bah, c'est sûr, bien sûr. Notre idée, c'est en fait d'être de plus en plus proche à nos clients, du moment où ils réservent. Mais en fait, si on réfléchit, même avant, du moment où ils sont en train de faire des recherches, jusqu'à l'instant où ils rentrent de vacances. On est en fait présent et vigilant sous le meta-search, donc avant la réservation. Et ensuite, on est aussi là quand ils ont besoin de réserver un hôtel, un vol ou quoi que ce soit d'autre. Et enfin, on est aussi là quand le client a besoin, par exemple, d'aller à l'aéroport. Il a aussi besoin de se déplacer et à l'arrivée de réserver une pièce de théâtre, une place au cinéma et pourquoi pas un restaurant. Ça finira par être de plus en plus facile de leur servir sur ces besoins parce qu'on connaît 2,5 millions de nos clients. Nous avons de plus en plus de passagers et nous avons tout de leur âge, leur goût, leurs besoins. On peut donc leur proposer ce qu'il faut pour simplifier leur vie selon leurs besoins et leur intérêt en fait. Et c'est pendant leurs vacances, mais c'est aussi la raison pour laquelle réfléchir à la mobilité est important. Certes dans les villes, mais aussi plus simplement sur la manière dont nous bougeons n'importe où.
Donc demain, ce que vous dites, c'est que demain, vous pourriez également proposer en complément dans l'application Urbi, que vous pourriez proposer, par exemple, aux voyageurs d'acheter une place de théâtre.
We are ready in London, where the market to sell tickets is more advanced.
Oui, bien sûr. Vous voyez, à Londres, où le marché de la billetterie est plus mature, on vend déjà plus de 300 000 places par an. Donc, on est déjà l'une des plus grosses sociétés sur le marché à faire ça. Et si vous pensez, quand j'ai commencé ce business-là, il y a 15 ans, les billets ont été imprimés tout du papier. Et aujourd'hui, il existe encore énormément de choses comme les billets du bus, de théâtre, qui sont encore sur papier. Donc, et là, on est en train de passer du papier au mobile, grâce notamment au QR code. La prochaine étape sera qu'on n'aura même pas besoin de sortir nos téléphones de nos poches. Vous avez votre téléphone dans votre poche et vous allez directement faire votre check-in et grâce à des beacons qui vous reconnaîtront, vous serez tout à fait reconnu. Donc l'expérience devra être différente et tout ça à partir des informations qu'on a déjà. Pour résumer, l'important ici, c'est ça reste l'information qu'on possède, même pas les ressources qu'on va utiliser.
Alors, un des grands pans de votre stratégie innovation, c'est également votre relation très, très proche avec les startups. Si on est là, on est là pour le SeedStars Summit, dont vous êtes l'un des grands partenaires. Encore cette année, vous allez remettre un prix d'investissement à la meilleure startup spécialisée dans le voyage. Pourquoi cet intérêt pour les startups?
Je crois que en fait, dans tous les secteurs, l'innovation ne peut pas venir que de l'interne, mais aussi dans l'externe. Une société avertie devra toujours scanner un peu le marché et choisir les meilleurs entrepreneurs, les meilleures innovations qui peuvent vous apporter des choses, des améliorations. Parce qu'aujourd'hui, on est trop gros, nous sommes plus d'un millier, donc ce n'est pas toujours simple d'innover en interne. SeaStars est très bien dans la mesure où il s'intéresse au nouveau marché, au marché émergent. C'est très bien parce que ça nous permet de sélectionner quelques startups et nous parlons avec les trois finalistes aujourd'hui pour investir chez eux. C'est aussi un bon moyen pour nous d'offrir un nouveau service à nos clients grâce à ces partenariats. Et c'est mieux de travailler en fait avec des entrepreneurs qu'avec des employés qui sont déjà occupés.
Merci beaucoup Fabio Cannavale. Je rappelle, vous êtes PDG du groupe lastminute.com. Merci beaucoup.
Lila, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec notre patient Solon Salette. Et on va parler de transhumanisme. À tout de suite.